Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes le 6 décembre 2023 et durant 3 semaines, chaque mercredi après-midi, eh bien ce seront des étudiants et des étudiantes de l'UTC qui seront à l'antenne dans le cadre, comme vous l'avez entendu, de la matière WE01. Alors WE1, c'est une matière qui étudie le fonctionnement du numérique et du web, omniprésent autour de nous, dans nos poches, dans nos villes, dans nos gouvernements. Cette explosion des outils numériques pose évidemment des questions éthiques, sociales, environnementales et tant d'autres. Pendant tout le semestre, les étudiants et les étudiantes ont travaillé sur une problématique d'actualité en rapport avec le numérique et vous restituent aujourd'hui le résultat de leur enquête. Je m'appelle Quentin et pour cette émission, je suis accompagné de Dahlia, Paul et Louise. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, votre sujet était intitulé « IA générative et post-vérité ». La problématique que je vous avais donnée était « En quoi les IA génératives et la production automatisée de contenu sur le web réinterrogent le statut de l'information ?» Alors, ça fait très technique, très compliqué, beaucoup de termes. Alors, il est temps de rentrer dans un peu plus de concret et de comprendre pourquoi cette question est cruciale. Et pour ça, je laisse la main à Dahlia. C'est à toi.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Graphite de nous recevoir. Bienvenue sur notre segment du coup consacré à l'intelligence artificielle générative et à l'impact que celle-ci a sur le statut de l'information. Donc le terme d'intelligence artificielle, ou que l'on appelle aussi souvent IA, est entré dans notre quotidien depuis quelques années. En effet, que ce soit l'IA dans nos smartphones, l'IA qui nous permet de traduire des textes, ou encore celle employée pour les jeux vidéo ou pour les véhicules autonomes, l'IA est globalement partout. Donc la grande question au final, c'est de comprendre de quoi on parle réellement. Car comme vous l'aurez compris, il s'agit d'un terme qui désigne plein de réalités très différentes, dont il serait impossible de faire le tour en 2 minutes. Nous avons choisi d'aborder le domaine très spécifique des intelligences artificielles génératives. Donc si vous avez déjà entendu parler de ChatGPT pour la génération de texte ou encore de DALL-E pour la génération d'images, eh bien c'est exactement le sujet. Donc cette notion d'IA générative est d'ailleurs souvent mal comprise par le grand public. Les IA génératives se distinguent donc des IA traditionnelles de par le fait qu'elles se concentrent sur la création de données et de contenus. Alors que l'IA classique va s'atteler à des tâches spécifiques comme la classification ou la résolution de problèmes, l'IA générative s'aventure, elle, dans le domaine de la créativité et produit ainsi des données sous forme de textes, d'images et même de musique. On comprend donc que l'usage de ces IA permet plus facilement la manipulation de la réalité. Pour que vous puissiez un peu comprendre comment ces IA font pour générer du contenu, je vais aborder l'exemple des Large Language Models, nommé LLM, qui est un exemple d'IA générative qui est utilisé notamment par ChatGPT pour la génération de textes. Donc ces modèles apprennent à prédire des mots, les mots suivants dans une phrase, en se basant sur les mots précédents ou les mots entrés par un utilisateur. Ces mots entrés par l'utilisateur vont être appelés un prompt. Ils utilisent des algorithmes complexes et des bases de données massives, dont l'origine peut parfois d'ailleurs demeurer mystérieuse. Rien de tel qu'un extrait de Monsieur Phi pour illustrer le fonctionnement des LLM, qui, je le rappelle, se base uniquement sur des probabilités d'occurrence et de prédiction. Donc dans l'extrait, Monsieur Phi cherche à montrer ce que suppose ce côté prédicteur de texte des modèles GPT en s'amusant à générer des textes. Il demande ici au générateur de texte de répondre si le meurtre d'un certain DDK, donc un personnage fictif qui n'existe pas, a bien eu lieu. Et donc il utilise une application d'OpenAI qui permet d'utiliser différentes versions du modèle GPT. Je le rappelle qu'il ne s'agit pas d'un chatbot, mais du modèle lui-même.
Monsieur Phi, c'est un youtubeur philosophe, hein, et donc dans sa vidéo, il utilise, comme tu me disais, le modèle GPT-3 sur lequel se base ChatGPT et globalement tous ces trucs-là font partie des LLM qui sont à la base de tous ces trucs qui permettent d'écrire du texte, de générer du texte. Donc on est parti pour l'extrait de Monsieur Phi.
Donc maintenant si je pose plutôt une question et que je demande le meurtre des DDK a-t-il eu lieu ? Là je pose une question. La suite va répondre à cette question. Mais de la même façon, il ne faut pas imaginer qu'il cherche une réponse à cette question. Hein. Il essaye juste de prédire la suite d'un texte qui commencerait par cette question. Et a priori, un texte qui commence par cette question va probablement y apporter une réponse par la suite. Mais la génération d'une réponse, c'est juste un effet secondaire du truc. Hein. Ce que le modèle essaye de faire, ce n'est pas de répondre, et encore moins de répondre de façon correcte, hein, d'autant plus qu'il n'y a pas de réponse correcte ici. D'ailleurs, si on le relance, un coup le meurtre a lieu, un coup le meurtre n'a pas eu lieu. Mais bon, clairement, GPT n'a pas de point de vue sur le fait que DDK a été tué ou non. Ça n'a pas de sens de parler de ce que croit GPT à propos de ce meurtre qui, de toute façon, concerne quelqu'un qui n'existe pas. Alors là, si j'ai commencé par prendre un exemple débile comme DDK, c'est pour rendre clair que le texte généré ne doit pas être considéré comme une réponse, mais comme une prédiction, une complétion crédible à partir d'un contexte.
Donc, je tiens à préciser, comme on l'a dit juste avant l'extrait, qu'il s'agit pas directement d'un chatbot comme ChatGPT, mais d'une version simplifiée qui utilise le même processus et le même modèle. Donc, on comprend bien à travers cet extrait que les IA génératives ne répondent pas, mais prédisent bien quelque chose. Cette évolution technologique relève aussi de nombreuses questions sur la nature même de l'information et son rôle dans la société contemporaine, car elle est devenue un moyen de produire de l'information qui peut ensuite être communiquée. Donc le premier point important, c'est de parler de ce processus. Donc comme je l'ai dit précédemment, peu de personnes comprennent réellement ce processus et utilisent ainsi les IA génératives pour acquérir des informations qu'ils considèrent par la suite comme une vérité, un fait. C'est pour cela que le déploiement massif des IA génératives transforme peu à peu le paysage du web et notre perception de la vérité. Jacques Goudy a notamment souligné ce point dans son ouvrage « La raison graphique » en évoquant le fait que les moyens de communication influent considérablement sur notre façon de penser et de fonctionner. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais l'avènement de l'écriture a donné naissance à des concepts très complexes. Je pense notamment aux mathématiques. Donc ce simple acte d'écrire a eu des conséquences remarquables sur notre évolution en tant qu'espèce. Au fil du temps, nous sommes passés du coup d'une communication orale à une communication écrite sur des supports physiques, puis à une communication orale et écrite sur des supports numériques. Aujourd'hui, on entre donc dans une nouvelle ère avec les IA génératives qui offrent un moyen novateur de produire et de communiquer de l'information. En suivant du coup la réflexion de Goudy, nous pouvons nous interroger sur les implications de cette évolution pour notre espèce si nous n'avons plus besoin de produire nous-mêmes les informations que nous souhaitons partager. Ainsi, en plus de transformer peu à peu le paysage du web et notre perception de la réalité, le déploiement des IA peut également impacter notre rapport au travail. Donc pour conclure un petit peu sur cette partie, les LLM et les IA génératives ont une variété d'applications, que ce soit de la traduction générative de texte à la création de textes fictifs ou à la réponse de questions, la résolution de jeux stratégiques. Ces IA sont de plus en plus performantes. Mais ces avancées soulèvent également des questions éthiques en ce qui concerne la manipulation potentielle et la création de contenus trompeurs. Donc ça ouvre un débat crucial qui émerge sur la réglementation et l'utilisation responsable de ces technologies dans différents domaines, l'éducation, les entreprises, en informatique, et surtout en sécurité informatique. Je vais du coup laisser la parole à Paul, qui va vous parler un petit peu plus des problèmes qui sont liés à l'utilisation de l'IA générative, ainsi que des moyens et des stratégies pour les contourner.
Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Paul et comme Dalien vient de le dire, je vais vous parler un peu du cadre et des enjeux juridiques qui entourent les large language models. Les LLM soulèvent plusieurs problèmes majeurs déjà lors de la génération de contenu. Comme l'a dit Dalia, les LLM sont basés sur des centaines de millions de données qui sont sourcées de manière plutôt douteuse, donc c'est quasiment impossible de retracer les sources qui sont utilisées par les LLM. Ça soulève des inquiétudes sur la véracité et la fiabilité du contenu qui est généré. Même si, encore une fois, les LLM du coup ne se contentent de produire que des prédictions en générant un mot après l'autre, sans réellement réutiliser le contenu avec lequel elles ont été formées, ça soulève des questions importantes sur la propriété intellectuelle. Comme donc ce contenu généré se base sur des choses qui ont été écrites par des humains. Est-ce que le droit d'auteur s'applique à ce contenu? Est-ce qu'il est considéré comme libre de droit, pardon? Est-ce que c'est un assemblage de ce que l'IA juge pertinent en fonction de la demande? Donc là-dessus, en France, la question est encore un peu floue d'un point de vue juridique. on considère que le droit d'auteur peut s'y appliquer et du coup le contenu généré serait donc la propriété de OpenAI, qui est donc l'entreprise qui appartient à ChatGPT. Mais dans d'autres applications, cela peut s'avérer un peu compliqué et dans certains cas, ça peut créer certains problèmes. Également, un autre souci, c'est la facilité pour contourner les réglementations. Comme Dahlia a pu le dire, il est très facile de générer un peu tout et n'importe quoi et de faire dire un peu tout et n'importe quoi aux IA. Donc on pourrait penser à du contenu qui pourrait être trompeur, usurpateur, désinformatif. Et si on pense à une utilisation conjointe avec d'autres IA donc, qui permettent la génération de voix, d'images et peut-être des IA qui sont en train d'émerger pour générer des vidéos, on peut du coup penser que la création de contenu usurpateur à divers fins pourra au fur et à mesure du temps de plus en plus être convaincante. Donc par exemple, justement, dans l'exemple de campagne politique, certains acteurs politiques pourraient être amenés à exploiter les large language models pour élaborer des discours de désinformation, diffuser des fausses nouvelles et influencer donc l'opinion publique. Donc voilà, on constate ici une espèce d'urgence pour repenser et mettre un cadre juridique réel sur le contenu généré par les IA. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est sur par exemple les mails de phishing, donc des mails qui se font passer pour des entreprises vous réclamant vos données bancaires ou de l'argent directement. Il faut maintenant, grâce à ChatGPT, seulement 5 minutes par exemple pour lui demander de générer un mail qui soit plutôt crédible, et il peut même vous donner tout le code permettant de créer une page qui soit une copie en fait d'une page déjà existante pour vous soutirer vos informations. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà possibles pour l'instant. Maintenant, je vais vous laisser écouter un petit extrait du youtubeur The Flares qui fait une prédiction un peu, qui imagine de manière fictive ce que les IA pourront être capables de faire d'ici 2027. Donc c'est très bientôt.
2027.
Les IA deviennent de plus en plus créatives et capables de donner vie à nos idées les plus folles. Elles génèrent des vidéos ultra réalistes d'une demi-heure à partir de simples textes, mais aussi des environnements 3D. Les artistes utilisent désormais ces outils pour créer leur musique, leurs images, leurs vidéos et leurs jeux en un rien de temps, ne laissant que quelques retouches finales. Des films et séries entières sont générés par des IA avec de moins en moins d'apports humains. Créer de l'art sans IA ne concerne que ceux qui veulent exclusivement la créativité humaine. La réalité virtuelle et réalité augmentée deviennent enfin des outils utiles. Les jeux VR sont de plus en plus incroyables et les joueurs n'hésitent plus à investir. Les réunions dans des salles virtuelles sont désormais courantes et plus immersives, limitant les vols internationaux. Le codage automatisé est devenu si bon marché que plus de 90% de tout le code informatique est écrit par des IA, ce qui inclut des IA codant d'autres IA. Les modèles sont plus multimodaux que jamais à travers plusieurs flux d'apprentissage en utilisant des données de la vision, du langage, audio, etc. Un pas de plus vers la généralité, et bien sûr, la communauté risque existentielle et sécurité de l'IA, c'est fait dessus.
Voilà, donc bien sûr, donc encore une fois, il ne s'agit ici que d'une fiction, mais vu à quel point les choses avancent vite, c'est fort probable qu'on arrive à ce point-là un jour ou l'autre. Donc pour contrer tout ça, est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place et quelles sont ces stratégies? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. Donc, y a pour l'instant différentes stratégies qui sont envisagées pour atténuer les risques et promouvoir une utilisation plus responsable de ces technologies. Une première pourrait être donc de mettre en place des réglementations strictes et un cadre juridique qui soit vraiment spécifique pour encadrer l'utilisation de ces IA génératives. Certains pays et organisations commencent à explorer cette voie pour établir des normes claires en matière de génération de contenu automatisé, comme je vous en ai parlé, donc pour le contenu généré par ChatGPT au niveau du droit d'auteur. Ces réglementations pourraient inclure des exigences de transparence quant à l'origine des données utilisées par les IA génératives, ainsi que des réglementations pour définir la responsabilité légale en cas de création de contenu diffamatoire ou trompeur. Deuxièmement, on pourrait mettre l'accent sur l'éducation et la sensibilisation. Il est crucial d'informer le public, les utilisateurs d'IA et les créateurs de contenu sur les capacités et les limites de ces technologies. Les utilisateurs doivent être conscients des risques potentiels liés à la manipulation de l'information par les IA génératives. La création de programmes éducatifs, notamment comme pour W1, peuvent viser à aider la compréhension des technologies émergentes et à quel point elles jouent un rôle dans le futur. Également, un dernier exemple de stratégie pourrait être le développement de filtres et de mécanismes de vérification avancés. Par exemple, les plateformes en ligne comme les réseaux sociaux, etc., pourraient intégrer des outils automatisés capables de détecter les contenus générés par des IA. Ces filtres pourraient analyser la probabilité d'authenticité d'un contenu en se basant sur divers critères, donc la cohérence contextuelle, la crédibilité des sources supposées, etc. Donc ça viendrait en fait à créer une sorte d'IA pour détecter les IA, un peu le serpent qui se mord la queue. Pour mettre en œuvre donc ces stratégies, mettre en œuvre donc toutes ces stratégies est un point crucial pour encadrer de manière responsable l'utilisation des IA et garantir que ces technologies restent bénéfiques à la société sans compromettre l'intégrité de l'information et les principes éthiques fondamentaux. Donc, comme on l'a entendu dans l'extrait de The Flares sur ce que les IA pourront être capables de faire dans à peine 4 ans. Je vais maintenant vous laisser vous imaginer que vous êtes plongé dans une soirée d'hiver, non pas en 2027, mais cette fois en 2398. Et je laisse la parole à Louise.
En cette soirée d'hiver, la grande ville bétonnée de New York s'apprête à fêter Noël. Le grand sapin est monté sur Rockefeller Center comme chaque année depuis plusieurs siècles. Les lumières de couleurs rouge, verte, dorée décorent les rues d'une chaleur exceptionnelle. Les chansons de Noël, qui n'ont pas changé depuis les années 2000, sont diffusées dans toute la cité. Des publicités de diverses marques sont affichées sur les écrans de Times Square. Et sur plusieurs d'entre eux, une femme d'une trentaine d'années avec des cheveux lisses et le visage neutre apparaît en boucle en disant « Information & Co. vous souhaite un joyeux Noël ». Pourtant, personne né dans les rues. Dans un petit appartement de Manhattan, Billy se repose sur son lit. Elle regarde le plafond. Elle sent ses pouces tourner entre eux d'un mouvement léger mais mécanique. Elle ne pense à rien. Billy vient de sortir du lycée, ce qui est un miracle au vu du manque d'intérêt profond qu'elle présentait pour ses cours, mais elle avait bel et bien réussi. Et maintenant, on la pousse à rechercher un travail alors que Billy n'avait même pas de téléphone pour communiquer avec sa famille. Elle ne voulait rien. Rien ne la passionnait. Et elle ne faisait rien pour combler à ce problème. Elle était heureuse d'être isolée du reste du monde.
« À table, Billy !»
appela sa mère soudainement. Billy était maintenant seule avec elle. Son grand frère Henry est parti de la maison il y a 2 ans. Elle s'installe à côté de sa mère sur le canapé. Soupe de lentilles et carottes ce soir. Cindy allume la télévision pour regarder les informations. La même femme que sur les écrans de publicité apparaît soudainement. Billy n'écoute pas. Elle regarde la soupe encore trop chaude et attend avec impatience le moment où elle pourra retourner dans sa chambre. Le lendemain, Billy se balade dans la forêt. Cette forêt a été installée artificiellement il y a 200 ans pour combattre le réchauffement climatique. Les arbres sont génétiquement modifiés pour absorber tout le carbone émis par la ville de New York. Aucun habitant de la ville ne souhaitait se balader dans cette nature qui paraissait hostile et sombre. Mais Billy y trouve une isolation qui lui fait profondément de bien. De sentir l'air pur dans ses poumons, entendre le bruit du vent dans le feuillage des arbres. Elle décide de prendre un nouveau chemin pour sortir de la monotonie quotidienne. Le passage tourne et vrille autour des arbres. Rapidement, Billy perd toute notion de où elle est. Et soudainement, elle se retrouve devant une cabane. Étonnée, elle s'approche. La curiosité l'envahit. Elle n'a jamais vu de structure construite en bois et encore moins une maison. Elle s'approche doucement de la cabane,
ouvre la porte et découvre un escalier en spirale qui semble mener vers un sous-sol. Avec un pas hésitant, Billy descend doucement. La lumière du haut de l'escalier illumine légèrement ce qui paraît être une très grande bibliothèque. Pour la première fois, Billy se sent vivante. Elle a peur, elle est curieuse, elle est perplexe. Elle prend un de ses livres couverts de poussière. Guerre de 14-18. Elle en prend un autre. ChatGPT, une révolution pour les IA génératives. Fascinée, elle prend tous les livres qu'elle puisse porter et repart chercher le chemin du retour. Ce sera difficile pour Cindy, la mère de Billy, de la sortir de sa chambre pendant les semaines qui suivent cette découverte. Même lorsque son frère Henry passe visiter, elle refuse même de prononcer un bonjour. Billy est dans sa chambre, plongée dans ses lectures. Euphorique, confuse, triste, enragée. Elle ne sait pas quoi ressentir à chaque nouveau mot. Ses guerres, ses innovations, personne n'en parlait. L'histoire qu'on lui avait apprise au lycée était contraire à celle de ses écrits. Et pourtant, tous les livres étaient bel et bien publiés par l'État. Elle regarde toutes les photos de personnes qui vivaient à cette époque. Elle voit de nombreuses images des familles qui sont mortes pendant les deux grandes guerres. Elle revient à se poser des questions sur sa propre famille. N'a-t-elle jamais eu de père ? Un souvenir vague lui apparaît dans la tête. Un dîner en famille.
Plus de soupe, Charles ?
Ce serait avec plaisir.
Répond l'homme. En effet, il y a un temps où Billy vivait avec une famille complète. Comment son père est parti ? Et pourquoi ne s'en souvient-elle pas ? Est-ce que ça avait un lien avec tout ce qu'elle a appris ces dernières semaines ? Les mois passent. Billy retourne régulièrement à ses bibliothèques et questionne de plus en plus les choses qui l'entourent. Elle pose des questions à sa mère. Les réponses ne l'aident pas tant. Cette fois-ci, elle pose des questions à son frère Henri. « Et c'est quoi ton travail exactement, grand frère ? » dit-elle avec un ton aussi innocent que possible. Henri ne sait pas comment répondre à une telle question. Il répond donc avec un silence. Billy décide donc de trouver la réponse elle-même. Le lendemain matin, lorsque Henri part pour le travail, elle enfile rapidement ses chaussures pour le suivre. Il marche le long des rues de New York. Il s'arrête brièvement et rentre dans un taxi. Billy prend le suivant et indique à la voiture autonome de le suivre. Il s'arrête devant le bâtiment le plus haut de la ville. Au sommet est écrit « Information & Co ». Sans se faire remarquer, Billy entre dans le gratte-ciel. Ayant perdu son frère de vue, elle décide de chercher d'autres indices. Elle cherche dans le bâtiment, elle va à droite, à gauche, en haut, en bas. Elle fait quasiment tous les étages et finalement elle arrive devant une porte vieille et rouillée, comme si personne n'était passé par là depuis des années. Elle tape d'un bon coup dedans et par chance, la porte s'ouvre. Devant elle, des rangées de cellules. Elle passe devant toutes les personnes enfermées, tout aussi puisée de vie que les autres. À la cellule 431, elle reconnaît enfin le visage de son père. « Papa ?»«
Billy ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Comment as-tu réussi à trouver cet endroit ?»«
Je suis partie à ta recherche. Je sais que toutes les informations qui sont diffuses dans le monde sont fausses. Je connais la vérité. Comment on ouvre cette porte pour qu'on puisse partir d'ici ?»«
Mais Billy, la porte est ouverte. Nous sommes tous ici volontairement. » C'est un choix qu'on fait, parce qu'on sait très bien que personne ne nous croit. On est pris pour des fous, autant rester ici. Ici, au moins, ils nous laissent avec notre conscience. On sait que tout est faux.
Mais tu ne veux pas revoir maman et Henri ?
Mais bien sûr, ma chère. Mais tu vois bien que toi, comme moi, nous sommes seuls. Tu sortiras de ce bâtiment, et tu ne sauras plus rien de la vérité.
Mais je la connaissais avant d'arriver ici, la vérité, je la connaîtrai en sortant, non ?
Non, Billy, peu importe. Les programmes fonctionnent sur tout le monde, même sur toi. À partir du moment où tu interagis avec, tu vas devoir faire face à un choix, comme le mien. Une vie dans le déni et l'ignorance, mais heureux. Ou une vie où tu fais face à la vérité, mais dans une isolation totale.
Bravo Louise, Dahlia et Paul pour cette intervention, cette superbe fiction. Je laisse à tout le monde le temps de reprendre un petit peu ses esprits et de sortir dans l'univers où tu nous as transporté, Louise, pour revenir un petit peu sur les questions que les étudiantes et les étudiants ont pu poser dans le chat pendant l'émission. Et donc, bah voilà, sentez-vous libre de répondre, même si ça concernait la partie de quelqu'un en particulier, de répondre collectivement. Je laisse vos micros allumés. Alors, une première question, c'était plutôt sur la partie de Dahlia. Et c'est Noam qui demande, par sa logique de prédiction, une IA générative ne peut pas indiquer qu'elle n'a pas de réponse. Quels effets cela peut-il provoquer, selon vous, chez l'interlocuteur? Quel impact cela peut-il avoir sur notre perception des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse claire, voire pas de réponse du tout?
Eh bien, justement, je pense que là est tout le problème avec les IA génératives et notamment avec le fait que le grand public s'en sert sans forcément comprendre ce à quoi ils font face, entre guillemets. Donc un interlocuteur qui ne va pas forcément comprendre la logique, le fonctionnement d'une IA générative de texte, par exemple, comme ChatGPT, et qui va du coup poser une question qui n'a normalement pas de réponse, mais dont l'IA va produire une réponse, ça peut du coup provoquer une confusion chez l'interlocuteur, mais ça va aussi provoquer une espèce de déformation de la perception de l'information, du vrai et du faux. C'est-à-dire que l'interlocuteur va du coup penser que cette réponse a une question. Après, si je ne me trompe pas, les nouveaux modèles de génération de texte, notamment de ChatGPT, sont affinés à travers un retour humain. Donc des humains vont faire passer plusieurs types de questions et plusieurs types de sujets et vont essayer d'affiner en fait le modèle en disant à certains moments qu'il n'y a pas de réponse pour tel ou tel sujet. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Noam ?
Eh ben, j'ai l'impression que oui, en complément, effectivement... ça peut aussi, ça peut donner l'impression qu'il y a des réponses simples à tout et quelque part simplifier la réalité où finalement on est que sur de la prédiction, mais l'illusion de crédibilité et de un peu de scientificité de la réponse peut simplifier vraiment le monde à l'extrême. Mais comme tu le dis, effectivement, les modèles sont capables de dire je ne sais pas. Donc c'est un petit peu... mais on peut toujours les hacker. C'est toujours ça le problème, en fait. C'est que c'est une espèce de course du chat et de la souris entre qui arrivera à faire dire quoi à quel modèle.
On peut en effet toujours détourner la question pour avoir une réponse au final, mais il faut vraiment vouloir une réponse à cette question pour réussir à détourner les modèles au jour d'aujourd'hui, puisqu'ils ont, comme je l'ai dit, ils ont été... beaucoup retravaillé.
Merci beaucoup Dahlia. Allez, encore trois questions, on va essayer de ne pas faire trop long. Plutôt pour Paul, c'est Elliot qui demande, est-ce que tu penses que le développement des IA génératives va amener les législateurs à voter des lois pour lutter contre les utilisations trompeuses et ou illégales? Et si oui, est-ce que tu as des idées de réglementation qui pourraient voir le jour pour lutter contre cette manipulation de la vérité? Alors c'est pas évident, là on me demande de pondre un texte de loi pour que les IA génératif fasse pas de mal, donc pas de pression.
Alors pour la première partie de la question, je pense que oui, les législateurs vont être amenés à voter des lois pour lutter contre les utilisations trompeuses et illégales. Comme je vous l'ai expliqué, plus le temps va avancer et plus les contenus qui sont créés vont être réalistes et pourront tromper les gens. Donc je pense qu'on va être amené forcément à un moment où on va être obligé de créer un cadre juridique et des limitations à tout ça. Ensuite, pour les idées de réglementation, alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, j'en ai un petit peu parlé aussi, on pourrait penser notamment du coup à ce que dès qu'une personne crée un contenu trompeur ou usurpateur, cela soit détecté et qu'elle soit automatiquement, on va dire, associée à ce contenu, comme s'il y avait un peu un watermark, un, voilà, un petit bandeau qui disait que c'est elle qui l'a créé pour que si après ce contenu est utilisé à des fins trompeuses, on puisse facilement remonter à la personne. Bon, après, pour le reste, je pense qu'on peut un peu voir un peu tout et rien. Mais oui, des réglementations, je pense, vont être prises.
Bah c'est des bons éléments de réponse. Et puis en plus, c'est des trucs qui sont en train d'être discutés, mais qui posent à leur tour énormément de questions, notamment sur l'aspect un peu sécuritaire et surveillance. Si du coup on oublie l'anonymat dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs aussi d'IA génératifs qui ont promis de réussir à rendre leurs textes détectables, mais on est toujours sur ce jeu du chat et de la souris où il y a des gens qui vont se débrouiller pour prendre le texte, le modifier un petit peu. Donc c'est vrai que c'est une question très épineuse sur lesquelles les éléments de réponse, en tout cas, sont pas encore satisfaisants aujourd'hui, ou alors il faudrait changer de manière très radicale la manière dont on fonctionne, mais c'est pas le sujet de cette émission. Avant-dernière question, une question de Rémi par rapport à l'extrait du youtubeur The Flares, donc Paul, que tu nous as passé en deuxième partie. The Flares a l'air plutôt enthousiaste dans sa fiction. Il évoque la diminution des vols en avion, il évoque le fait que la réalité virtuelle et la réalité augmentée servent enfin à quelque chose. Est-ce que tu comprends, et pourquoi est-ce que ce futur pourrait être perçu plutôt comme dystopique pour certaines personnes plutôt qu'utopique?
Je pense que pour beaucoup de gens, justement, l'utilisation de l'IA dans l'art peut être vu comme mal, parce que forcément on perd le côté de j'en ai parlé un peu avec toi Quentin, mais que quand on lit un texte, ce qui nous touche, c'est à la fois le texte en lui-même, mais c'est aussi de savoir qu'il a été créé par un humain, par quelqu'un comme nous, et qu'on peut peut-être du coup aussi plus facilement peut-être s'identifier si l'art était amené à être complètement créé par une IA. Au final, je pense que ça perdrait non pas dans la forme de sa beauté, je doute pas que des IA arriveraient à créer de très beaux tableaux, mais dans le fond, en fait, est-ce que ça aurait encore du coup un intérêt de faire ça?
Merci beaucoup pour ta réponse. Et puis pour terminer, Maëlys demande à Louise: vivre dans une illusion heureuse ou dans un malheur conscient? Louise, si tu étais Billy, quel choix aurais-tu fait?
Alors, c'est une excellente question. Alors, avant de répondre par rapport à qu'est-ce que moi je choisirais personnellement, je pense que le choix de Billy est assez évident, du choix de malheur conscient, parce que c'est quand même quelqu'un qui, dès le début de l'histoire, ne présente aucun intérêt pour ce qu'il y a autour d'elle. C'est quelqu'un qui... n'est plus très curieuse du monde qui se présente autour d'elle, parce que il était tellement déshumanisé que c'est quelque chose qui ne l'intéresse plus. Et du coup, le fait d'en prendre conscience, pour elle, c'était le bonheur et c'était le truc qui lui donnait une passion dans la vie. Et c'est pour ça que je pense qu'elle, elle resterait clairement avec son père au fond de ce bâtiment, mais à être quelque part tout aussi isolée qu'elle l'était avant, au final. Donc pour elle, ça ne change pas grand-chose. Donc pour moi, c'est une question un peu... pour elle, la réponse est assez claire. Pour moi, c'est beaucoup moins clair. J'avoue que, évidemment, il y a cette importance qu'on pose dans est-ce que toutes les informations que je connais, c'est la vérité ou pas. Mais en même temps, de vivre dans un malheur éternel, c'est pas toujours très souhaitable. Donc c'est une question dont, j'avoue, je ne connais pas forcément la réponse pour moi personnellement. Mais je vous invite tous à y réfléchir.
Et d'ailleurs, ça fait un moment que les créatrices de Matrix nous ont appris à réfléchir, pilule rouge ou pilule bleue, c'est un peu ce même genre de problématique. Merci beaucoup Louise pour ta réponse. Et puis on arrive à la fin de l'émission. Et donc merci encore aux auditeurs et aux auditrices qui ont écouté cette émission, qui sera disponible prochainement en podcast sur aperi.tube. Merci encore Paul, Dalia et Louise pour votre travail. Bonne soirée à vous et puis à une prochaine. Salut.
Merci et bonne soirée.
Bonne soirée. Merci.